Bonjour et bienvenue au One Eye Club, le podcast BD bimensuel qui court d'automne en été toute la journée.
Ouais, je t'ai connu plus en verve quand même.
Oui, je sais. Bonjour Thio, bonjour Isaac.
Hello.
Hello.
Je suis One Eye Pied et vous êtes avec nous pour au moins une heure d'une émission qu'on va essayer de faire vite, mais pas trop. On va avoir une chute de micro.
Vas-y, fais-le vite, mais pas trop.
Au programme de cette émission, les news de Merton. Dans les vieilles BD, nous allons parler de fraises et chocolat et de comment je me suis fait plaquer.
Comment ensuite, je suis mangé le fond de la piscine.
Arrêtez les... Oui, alors Isaac, c'est manger le fond de sa piscine et un peu le nez...
éclaté.
Ah non, c'est pas la forme de ma piscine, parce que sinon, je serais un peu chez le voisin, là. Mais...
Voilà, je peux finir le programme.
Donc, fraises et chocolat, comment je me suis fait plaquer.
Ensuite, dans les bacs.
Powers, une nuit à Rome et Touillon.
Invincible, Touillon, une nuit à Rome et Powers. Une dernière chose dans l'ordre. Et le online. Nous parlerons d'une fantastique bande destinée online. Je voudrais aussi vous rappeler que vous pouvez toujours voter pour savoir quelle BD on va acheter parmi celles de nos invités. On va essayer de faire courir ça tout l'été.
Et la moins chère.
On l'achètera à... Non, c'est ce... Vous savez, quand vous cliquez sur les petites images qu'il y a dans chaque article, des BD, ça vous mène sur Amazon et c'est des liens qui nous permettent de gagner un pourcentage, des liens sponsorisés. Et avec l'argent, on achète des BD parce que c'est à ça que ça sert et on vous permet de choisir ce que vous voulez parmi la sélection de nos invités.
Et même si vous n'achetez pas la BD sur laquelle vous avez cliqué, par exemple, si vous souhaitez acheter un ordinateur sur Amazon, vous cliquez en passant par notre page et on touche un pourcentage de l'ordinateur. Ça peut aider aussi le site, c'est à vous de voir.
Voilà, c'est le seul moyen que vous avez de nous aider en dehors de mettre 5 étoiles sur iTunes.
Parce qu'on le vaut bien.
Voilà. Parmi les sélections, il n'y a pas eu beaucoup de votes pour le moment, mais c'est pas très grave, il y a déjà quelques trucs qui arrivent devant. Ça va être bien sympathique, je pense qu'à la fin de l'été, on fera nos courses et on verra ce qu'on prend.
C'est les news.
Bonjour Merton.
Hello, hello.
Alors, petit programme, c'est l'été, il se passe pas grand-chose, mais on a quand même eu des retours de gros événements. Et on va commencer par la Japan Expo Comic Con Paris, où nos talents de devin ont payé.
Alors là, complètement. Enfin, là, on a quand même, on a même eu un article qui disait qu'on avait été bon. Hein. Là, on a vraiment été. Je suis fier de nous, Pied.
Oui, je sais. En plus, donc ça, c'était concernant la bande dessinée du Visiteur du Futur, qui sera dessinée donc par Gauche, et dont une gazette était en vente avec plein de bonus, une sorte de petit journal bien dans l'esprit, et avec les premières planches de cette bande dessinée.
Ouais, puis le Visiteur du Futur, c'est quand même un grand stand et ça a bien, bien cartonné.
Ouais, c'était un gros stand. Je n'y étais pas pour ceux qui
auraient... Alors moi, j'y étais et c'était... voilà, il y a eu la diffusion du premier épisode de la saison 3. Là, fin, ça...
Tu l'as vu ?
Non, moi, je suis à la bourre sur la saison 2. Hein. Alors du coup, je n'ai pas pu aller voir la saison 3, j'avoue. J'étais un peu à la bourre, mais j'ai quand même hâte de voir ça et la Gazette était plutôt sympa.
Et puis aussi l'annonce de Kaamelott Resistance. Alors moi, j'avais déduit le truc, mais j'ai pas osé trop en parler parce que c'était un petit peu tordu au niveau de mon raisonnement. J'avais remarqué de façon assez surprenante que le gang retweetait les annonces de Alexandre Astier concernant Kaamelott Resistance, où il y avait juste un logo. Alors
bah,
le gang,
c'est
les scénaristes de geek, hein, des geeks. Donc ça m'avait fait bizarre. Et l'autre truc qui m'avait fait bizarre, c'est que lors d'une interview dans une émission qui s'appelle Le Rendez-vous Tech, Thomas Laboureau avait dit ouais, il y a un gros truc là qui s'annonce. Donc le dessinateur de la série Les Geeks, il y a un gros truc qui s'annonce pour la Comic Con, mais je peux pas en parler.
Exactement, et je me souviens qu'on avait discuté un peu en off hein, de ça, ouais, et ouais. Nos prédictions étaient encore bonnes, vu qu'on va avoir donc Camelot Resistance.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, Camelot Resistance, c'est quoi ? C'est, en fait, il va y avoir la suite de Camelot, hein, qui va sortir donc là au cinéma, et attention, spoiler, hein, donc fin de la saison 6, donc Lancelot prend le pouvoir, et ça devient une dictature horrible. Et donc, les films vont être sur comment Arthur va récupérer ce pouvoir, en fait. D'accord. Et Alexandre Astier s'est dit, mais ce qu'il y a au début de ce film-là, quand il y a des résistants, il y a des gens qui vont collaborer avec Lancelot, et il y a surtout pas mal de gens qui n'en ont rien à foutre ou qui comprennent rien. Et il a trouvé ce moment très, très intéressant. Il a décidé d'en faire un recueil de nouvelles. Un recueil de nouvelles, qu'est-ce que ça ferait ici ? Pas grand-chose, mais en fait, ça va être plus qu'un recueil de nouvelles parce que va y avoir des parties qui vont être en bande dessinée, ça va être quelque chose d'illustré, même un livre augmenté parce qu'on pourra avoir certaines scènes qui seront dites par les auteurs, voire même en vidéo, etc. Quelque chose d'un peu différent. Et il y avait une énorme expo Camelot Resistance à Comic-Con dirigée par Thomas Laboureau, évidemment, qui a dessiné pas mal, pas mal de planches dans l'univers Camelot Resistance.
Son style, est-ce qu'il a adapté son style ou est-ce que c'est son style habituel ?
Non. On sent un style vraiment, vraiment différent et, enfin, c'est pas les geeks, quoi. Hein, ça change. Ouais.
Ça oui, change. Parce que c'est le style des geeks magnifique. Qui ne semblait pas très adapté à du Camelot, c'est pour ça.
Non, pas du tout. Et,
c'est mais très là, bien pour ça, du contemporain, mais voilà.
Cette expo était géniale, il y avait des costumes officiels enfin de la série et ces planches magnifiques qui te mettaient complètement dans l'univers de ce qu'est Camelot une fois que Lancelot a pris le pouvoir. Vraiment très très sympa et on a hâte de voir un peu ce que ça peut donner quoi. Mais c'est vrai que moi j'aime bien Camelot et j'ai vraiment hâte.
C'était beaucoup quand même, beaucoup de news apparemment autour des shortcoms qui arrivaient des shortcoms et des web-séries qui arrivaient en bande dessinée. Hein. On sait qu'il y a aussi le joueur du grenier qui était annoncé.
C'est ça.
Il y a eu Flanders Company qui était annoncé, qui est sorti d'ailleurs.
Sur le joueur du grenier, on en sait un peu plus. Ce sera clairement du basique, une planche, un gag autour de l'enfance du joueur du grenier. Et il a vu donc Pirate Sourcil qui va faire la BD. Et en fait, ils se sont vus et le joueur du grenier lui a raconté un peu ses souvenirs vidéoludiques et la BD sera à partir de ça en fait. Donc voilà.
Bon, je suis un peu circonspect. J'avoue. Moi aussi, j'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup les deux auteurs.
Mais en fait, faut voir ce que ça va donner. C'est-à-dire que Pirate Sourcil, je pense qu'il a un humour qui peut faire marcher la BD. Mais voilà, pour le moment, moi, je reste un peu circonspect là-dessus. C'est à voir. Quoi.
Ok. Autre chose sur la Comic-Con Japan Expo, de belles annonces. Je sais qu'Urasawa a fait pas mal le show.
C'est ça. Non, c'était vraiment assez énorme d'avoir eu Urasawa, mais non, c'est enfin pas de grosses annonces de ce côté-là. Hein. De toute façon, c'était après c'est toujours pareil. Il y avait pas mal d'auteurs en dédicace, et puis des choses à voir. Il y avait une énorme expo Murena qui était magnifique, un gros stand d'Argo, enfin où il y avait du Torgal, du Asgard, etc. Vraiment, vraiment très
c'est
sympa.
Dingue, hein, c'est dingue qu'il y ait eu d'Argo et pas Urban Comics, quoi. Ouais.
Non mais voilà, c'est bizarre mais c'est comme ça. Par contre, Panini avait un énorme stand.
Alors que c'est quand même une année DC Comics là.
Bah ouais mais c'est bizarre hein. Enfin voilà. En même temps, c'est peut-être que les stands sont très chers et oui, puis Japan se lance quoi, hein. C'est parce que enfin quand on voit le monde qu'il y avait, c'est assez hallucinant quoi. Il y a certaines stars pour aller les voir, c'est même pas la peine quoi, vu la queue tu essayes pas.
Ouais, et puis apparemment même avec une carte de presse, il y a différents niveaux de cartes de presse.
Non, en fait, c'est que la carte presse marche pas partout. D'accord. Donc voilà, il y a parfois ça coupe la file et parfois non, donc tu fais la queue comme tout le monde. Mais en même temps, enfin, c'est peut-être pas plus mal, enfin voilà.
Ça dépend pourquoi.
Il y en a qui abusent aussi, donc bon.
Ouais, voilà. J'imagine qu'il y en a qui abusent. Mais c'est vrai que c'est pratique quand c'est pour accéder à une interview.
Non, mais les interviews, t'as une salle de presse avant, donc bon, faut pas non plus. Voilà, c'est vraiment juste pour voir les shows.
Et maintenant, on va à San Diego pour la Comic-Con originale, la première donc qui a été créée. Qui a l'air bien sympathique, ça a l'air joli, il y a l'air d'avoir un beau soleil là-bas aussi.
Ah mais carrément, non, mais moi tous les ans quand je vois les retours, j'ai juste trop envie d'y aller, quoi. Enfin, voilà. Si vous savez pas quoi faire, hein, payez-moi le voyage l'an prochain, ce sera cool.
Voilà. Ouais, ouais, bah si vous avez de quoi payer 2 billets, n'hésitez pas.
Cotisez-vous pour nous.
Bon, par contre, la Comic-Con, c'est surtout devenu l'arrivée pour Hollywood et les chaînes de télé de nous faire la présentation de leur nouvelle sortie, leur nouvelle sortie à tendance geek, voire pas geek, mais bon. La bande dessinée est surtout présente. Pour montrer les nouvelles équipes qui ont déjà été annoncées. Il y a peu d'exclus apparemment, j'ai l'impression, à la Comic-Con San Diego.
Bah, les exclus qu'on a eus sont surtout sur le ciné, quoi, hein, parce que c'est-à-dire que Marvel est arrivé avec l'armure d'Iron Man 3, voilà, ça, tous les fans étaient genre et puis ils ont continué en annonçant tous les films qui vont sortir, donc on va avoir Thor 2, on va avoir Captain America 2 aussi, on a commencé à... Voilà, en fait, ils commencent à faire leur... un peu leur échelonnement des films les uns après les autres.
Pour préparer Avengers 2.
c'est un peu ça, c'est exactement ça. Et si, quand même, grosse annonce, c'est pendant... donc DC Comics était en train de parler de Watchmen, comme ça, et puis il y a un mec qui est arrivé, qui a arrêté la conférence. Bon, c'était juste Quentin Tarantino. Et il a dit, tiens, je vais vous annoncer un truc, c'est que je m'allie à DC Comics et mon prochain film sortira en comics en même temps que le film, en fait. Donc, en fait, son prochain film, c'est avec Leonardo DiCaprio. Ouais. Ça s'appelle Django Unchained. Et donc, toutes les scènes coupées qui étaient un peu trop gore, un peu trop sanglantes, ouais, on les aura dans le comics.
C'est un truc très western spaghetti.
De toute façon, on reste dans l'univers de Tarantino. Hein. Enfin,
par contre, il est un peu has-been parce que Darren Aronofsky, lui, il fait les BD en général avant le film. Par exemple, il faut savoir que alors c'est pas une annonce récente, hein, mais le Noé qui est sorti il y a peu chez Dargaud d'ailleurs, je crois. Ouais. Il pensait qu'il n'arriverait pas à en faire un film, mais bizarrement avec Black Swan, maintenant il va réussir à en faire un film.
C'est vrai que c'est très bizarre.
Et de la même façon, The Fountain est sorti en BD parce qu'il n'avait pas réussi à avoir les sous pour faire le film.
Bon, alors moi, je suis peut-être un peu mauvaise langue. Hein. Le premier tome sortira quand même 2 mois avant le film. Donc,
c'est
le premier tome. C'est ça, ce sera okay. Un peu le... Voilà.
Bon, ils nous annoncent quoi comme film autour de la BD d'autres trucs
Alors, comme j'ai dit, il y aura Thor 2, Captain America 2 aussi. Mais surtout, quelque chose qui va ravir les fans, c'est une rumeur. Guillermo del Toro a dit qu'il serait peut-être pas contre un Hellboy 3, finalement. Parce que on sait qu'à la fin du 2, il avait dit non, c'est bon, j'arrête, etc. Et finalement, il semble que le personnage de Mignola le retitille un peu. Et voilà, bon, il n'y a rien d'officiel, mais en tout cas, les fans commencent à spéculer et pourquoi pas, parce que les deux Hellboy étaient plutôt sympas.
J'ai eu le second, mais c'est vrai que c'est pas mal, paraît-il.
Hâte de voir ça, si ça se fait, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Bah ouais, en plus, l'acteur, Ron Perlman avait pris le costume il y a peu de temps d'Hellboy pour réaliser le rêve d'un enfant pour une association.
Oh, c'est trop mignon.
Ouais, c'est assez la classe. Donc, il s'est redéguisé en Hellboy. C'est pas mal. Il y a un projet Ant-Man aussi chez Marvel, je crois.
Ouais, alors ça, c'était annoncé d'avant. Hein. Et puis certainement aussi dans la logique Avengers 2. C'est confirmé sur Ant-Man aussi. Alors ça, j'ai hâte de voir comment ils vont faire ça. Parce que vraiment,
c'est un personnage casse-gueule. Hein.
Ben, complètement. Mais alors, soit ils prennent un mec un peu fou et complètement fan et ça passe.
Bah, c'était Edgar Wright, je crois.
Ouais, je sais. Oui, peut-être, mais j'ai pas suivi.
Si c'est Edgar Wright, ils ont le gars un peu fou maintenant.
Ouais, mais est-ce qu'il va réussir? Parce que c'est vraiment un univers spécial. Donc, mais en même temps, je pense que j'irai au moins pour la curiosité, quoi. Disait il y a 5 ou 10 ans, genre le mec qui adaptera Ant-Man, il faut qu'il soit complètement taré. Enfin, voilà, c'était au début.
Il y a eu aussi, côté DC, une bande-annonce de Man of Steel, un trailer.
Ouais.
Que j'ai réussi à voir car il a été leaké. Qui est assez étonnant parce qu'on ne voit à aucun moment Clark Kent en journaliste. On le voit juste faire du stop avec une sale barbe moche.
Ouais, mais moi je l'ai pas vu. Enfin, j'ai jamais vraiment aimé Superman. Je le trouve toujours voilà. Mais bon, après c'est quand même Zack Snyder. Alors j'irai aussi. Juste
Christopher Nolan bien impliqué dedans.
Ouais, mais moi j'aime pas trop Nolan. Hein. Enfin.
Bon, moi je suis fan, mais bon.
Ouais, voilà.
Zack bon, Snyder, et puis une annonce comics. Allez, une annonce comics quand même.
Ouais, une vraie. Vas-y.
Une annonce comics. Sandman revient en 2013 et c'est Neil Gaiman qui sera au scénario, ce qui en soi est déjà top, ce sera une préquelle. Ça, c'est et c'est vraiment... J.H. Williams qui sera au dessin.
Non, ça c'est vraiment super.
Ça, c'est top, ça va être super beau. J.H. Williams, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il a fait récemment des Batwoman qui étaient très 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 jolies. Il me semble qu'il avait travaillé sur Promethea avec Alan Moore qui était aussi superbe. Je pense que ça peut nous faire un truc
Bah écoute, c'est bien, ça arrive bientôt, donc voilà.
Dernière annonce qui n'a rien à voir avec la Comic-Con, c'est que apparemment on nous annonce une possible série Barbarella.
Alors ça, ouais, c'est Canal+ en fait qui aurait racheté les droits.
C'est Season 1 qui nous annonce ça.
Ouais, on a vu ça sur Season 1.
Barbarella, c'est quand même une BD érotique à tendance fortement pornographique de Jean-Claude Forest, donc c'était du pornographique de l'époque, on va dire.
C'est ça, à l'époque c'était très osé, hein, très très osé. Mm-hmm.
Ça a été adapté en film en 68 par Roger Vadim avec Jane Fonda en robe très courte.
Bah oui, enfin quand elle avait une robe, enfin c'est toujours.
Voilà. Et là ils annoncent Nicolas Winding Refn, c'est super dur à prononcer, c'est le gars qui a fait donc Drive, qui s'est énormément fait connaître pour Drive principalement ces derniers temps, mais qui a aussi fait beaucoup de films qui ont beaucoup fait parler d'eux, dont j'ai oublié les noms, mais les gens de Culture Breakdown avaient fait une superbe émission dessus, donc vous avez qu'à aller les écouter.
Voilà.
Mais
en tout cas, moi, enfin, je me dis, là, Canal, ils prennent des risques quand même. Enfin, c'est pas vraiment grand public. C'est, enfin, ouais, c'est quand même osé, quoi.
Non, la question, c'est est-ce qu'ils vont garder le côté osé, est-ce qu'ils vont respecter le concept de base et.
Bah, c'est-à-dire que le truc le plus connu dans Barbarella, c'est quand même l'orgasmotron, qui est une machine qui tue les gens en leur donnant des orgasmes.
Ouais. Enfin, puis elle est tout le temps à moitié à poil. Enfin, c'est.
Enfin, mais elle y résiste parce qu'elle est super forte.
Voilà. Et maintenant, la question, mais qui est le directeur de casting?
Ouais, bonne question. Enfin, moi, j'ai hâte de voir qui ils vont caster pour la Miss, quoi. Mais bon. Mais ça, c'est quand même osé. Moi, je dis, là, faut des colonnettes et c'est bien joué.
Donc, on continue avec une news ciné un peu plus triste.
Ouais.
Donc, lors d'une... Donc là, nous, on enregistre, nous sommes vendredi soir. Hein, donc, on vient d'apprendre qu'il y a eu, lors d'une avant-première de The Dark Knight Rises, donc le dernier Batman de Christopher Nolan, un gars qui est arrivé masqué, qui a tué une quinzaine de personnes.
Alors là, on était, enfin, au dernier, c'est 12 personnes qui seraient décédées et une cinquantaine de blessés.
À Aurora, donc, un bled.
Ouais, c'est dans le Colorado, en fait. Donc, enfin, voilà, un état où ils aiment les armes à feu, de toute façon, dans ce coin-là. Et voilà, et donc là, je pense qu'on est reparti pour réentendre qu'ils jouaient à des jeux vidéo violents et que les comics, c'est le mal, etc. Enfin, voilà, parce que ça a déjà commencé. Les médias ont déjà commencé sur ce genre de choses. Donc,
Surtout, ils ont annulé toutes les avant-premières partout dans le monde.
C'est ça, ouais. Il n'y a plus rien en France.
Mais ça me semble un peu démesuré quand même. C'est un principe de précaution, hein, de la part de Warner, mais ça me semble un peu.
Non, mais c'est... Je sais pas trop ce que ça va donner. Espérons que quand le film va arriver, du coup, ils vont pas l'avoir un peu censuré, un peu, enfin, parce que c'est aussi le genre de choses qu'ils font assez régulièrement dès qu'il y a des problèmes ou des trucs. Donc voilà, c'est voilà, tout ça à cause d'un mec un peu taré. Donc ça fait un peu peur, quoi.
Ouais, ça fait un peu peur. Surtout.
Et puis, enfin, c'est vrai que t'as les vidéos des gamins qui sortent déguisés, complètement très terrorisés. Enfin. C'est ça la magie entre guillemets d'internet, c'est que t'as tout en direct live qui tombe sur Twitter, c'est assez dramatique, quoi.
Donc une triste nouvelle. On va pas trop s'attarder dessus, hein.
Non,
il y a pas grand chose à dire dessus que le truc classique. On continue sur quelque chose d'un peu plus business.
Ouais. Voilà. Un truc qu'on attendait depuis assez longtemps, parce que en fait il y avait eu pas mal de rumeurs autour de donc du rachat de Flammarion par Gallimard. Les deux PDG au début disaient mais non, bien sûr que non, ça se passera jamais. Et puis finalement, si, ça y est, Flammarion a été racheté par Gallimard. Grosse OP là quand même pour Gallimard, en fait, parce que du coup il récupère des Tintins ou des choses voilà, comme
alors,
ça.
Alors chez Flammarion, en fait. On a qui? au niveau de la
BD. On a Casterman, en fait.
Voilà, principalement.
Ouais, voilà, principalement.
Donc, ce qui en soi est déjà bien la classe.
Bah, c'est
et sachant que Gallimard se réserve le droit, à ce que je comprends, de revendre Casterman.
Ils ont déjà fait comprendre que la branche BD, ce n'était pas forcément ce qui les intéressait le plus. Et que ce serait s'il y avait des gens intéressés, ils pouvaient le céder quoi. Mais de toute façon, après, c'est des grosses holdings derrière. Hein. C'est pas non plus que ça, parce que Flammarion, c'est un groupe italien. Enfin, c'est une grosse holding italienne. Donc là, c'est des histoires de gros sous qui sont en jeu quoi.
Ouais. Bon, bah pareil. Hein, j'ai pas grand-chose à rajouter sur cette news qui est intéressante. On peut se demander ce qu'on devient
de Casterman. Juste voir que c'est encore la concentration dans le milieu de l'édition, quoi. C'est-à-dire qu'on le voit de plus en plus, les acteurs vont de plus en plus vers la concentration, parce que quand c'est la crise, hein, c'est toujours le premier réflexe, essayer d'être les plus gros et les plus forts avant que ça se casse la gueule. Donc là, on en a un bel exemple et on a du coup là un vrai géant énorme pour lutter contre les Hachettes ou des groupes comme ça.
Ça m'inquiète pas trop d'un côté des Casterman. Enfin, je dirais du Tintin et compagnie, ça m'intéresse surtout du côté des labels comme KSTR.
C'est ça.
Qui proposait quand même de très très bonnes choses et qui a dévoilé de très grands auteurs, dont Bastien Vivès hein, d'ailleurs.
Oui, complètement.
Donc c'est vrai que c'est plutôt de ce côté-là que j'aurais tendance à être un petit peu inquiet, savoir comment ça va impacter le groupe. Quoi.
C'est que sur des petits labels comme ça, qu'est-ce que ça va donner face à des gros, enfin du coup à un énorme mastodonte encore plus puissant. Quoi. Voilà, c'est à voir, mais de toute façon je pense qu'on en saura plus assez rapidement. Là ça s'est fait il y a quelques semaines. Bon, ça devrait avancer vite. En fait c'est toujours pareil, hein. Au début on nie les rumeurs et puis après ça va très très vite parce qu'il faut tout bloquer rapidement. Donc affaire à suivre de ce côté-là.
Ok, bon, je crois qu'on a fait le tour de toutes nos news.
Bah ouais.
Je vais pouvoir repartir en vacances. T'as des vacances, toi, un peu, quand même ?
Oui. Puis on va la semaine prochaine, donc tout va bien.
D'accord. Bon, oui. Merci. Merci encore pour ta participation à ces news.
Mais de rien.
On se retrouve la prochaine fois, donc le mois prochain. Et
du coup, là, je serai en vacances.
Tu seras en vacances, ouais, voilà. On verra. Alors, peut-être qu'on ne te retrouvera pas, on verra comment ça arrange. Nous aurons les hordes de fans de Merton qui vont se plaindre dans les commentaires.
Oui, venez vous plaindre.
Voilà. Merci et à plus, ciao.
À bientôt, ciao.
Il était temps. Nouvelle œuvre de la bande dessinée ancienne.
Fraises et chocolat de Aurélia Auritin aux éditions Les Impressions Nouvelles.
Alors, on a eu la chance de la rencontrer lors du festival des Calanques et des Bulles. Donc, j'ai pu avoir une magnifique dédicace sur mon exemplaire. On a parlé Calanques, d'ailleurs. Elle découvrait pour la première fois les Calanques, puisqu'elle est parisienne, on va dire, et sinon, elle vit au Japon. Et donc, Fraises et Chocolat fait partie, c'est pas son premier, mais c'est pas loin, ça doit être son deuxième ou troisième livre. Et c'est surtout celui qui a permis de la faire connaître. Et quand on a fini de lire, on peut comprendre pourquoi. C'est généralement, je pense que ça fait partie des petits bouquins dont on va pouvoir se souvenir pour une raison X ou Y. Mais en l'occurrence, c'est vraiment X et Y. Parce que c'est assez sexuellement explicite.
Alors, dans le genre, nous avons mis autobiographie sexuelle. Ça nous raconte l'histoire de Aurélia qui va retrouver son copain au Japon, qui s'appelle Frédéric, et elle nous raconte toute leur relation sexuelle et leur intimité.
C'est ça. Et puis pour elle, en plus, on est vraiment dans la découverte de sa sexualité, quoi. Elle est vraiment dans cette découverte-là. Elle a finalement visiblement que peu d'expérience à ce moment-là, sachant qu'il y a un écart d'âge.
Oui, il y a un écart d'âge, parce que Frédéric est plus vieux. Et alors, en dehors du côté... au niveau du scénario.
Moi, j'ai noté que c'était découverte de la sexualité. On est vraiment dans cette boulimie, ces interrogations... à la fois sur les pratiques, sur la sexualité, la différence entre la sexualité et la sentimentalité. On navigue un petit peu là-dedans, dans ces errances au niveau de sa construction dans ses jeunes années.
Thio ne l'a pas lu, donc on va le zapper. Si tu l'as lu, je ne sais plus.
Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais si, il l'a lu, bien
je
sûr.
Je sais plus qui a lu quoi, mais oui, il l'a lu. Non, mais je le voyais qu'il regardait l'air dubitatif, genre, je le redécouvre.
Bah, écoute, dans ce qu'ils m'ont dit, oui, je découvre peut-être un bouquin que j'ai pas lu.
T'as pas lu le même que Kinaak. T'as pas lu le même Kinaak, c'est ça?
Tiens, arrête de me dresser le micro, s'il te plaît, parce que. Voilà, merci.
Tu as les micros un peu bas.
Moi, pour le scénario, j'ai mis et ensuite, point d'interrogation, parce que, bah, écoute, mis à part ouais, une découverte sexuelle, et moi, ça m'a rien raconté d'autre, quoi. Donc, toi, tu me parles de sentimentalité, de découverte, de ouais, c'est plein de grands mots, mais bah, écoute, moi, j'ai lu les pages, mais j'ai pas. Je suis resté un peu bon, bah, ok, et ensuite, quoi, il y a autre chose? Ça me raconte autre chose? Non.
Il y a un 2.
Ah.
Oui, il y a un tome 2 que je n'ai pas, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, Matt, c'est très auto-centré. C'est-à-dire qu'on est dans la découverte de sa sexualité à elle, dans, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle arrive à faire comme différence entre les sentiments, les envies de découverte, la nouveauté, etc. Mais effectivement, c'est très auto-centré, c'est très, très, très personnel, quoi.
Moi, je l'ai trouvé cru, le scénario, mais aussi surprenant. Il y a un côté... auquel on s'attend pas, c'est-à-dire qu'on se prend justement cette sexualité de point de vue vraiment frontal. C'est des très choses qu'on n'a pas l'habitude de lire, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a un côté pornographique sur le sujet, mais ce qu'elle raconte, c'est comment elle a découvert la sexualité, et elle fait pas ça pour nous dire « Regardez, du boob, ouais, des nichons et des queues !» Non, c'est pas ça le sujet. Tu vois, c'est, il y a ce côté découverte. Mais après, c'est vrai qu'on se dit, mais c'est son histoire à elle. En quoi ça m'intéresse? Le truc qui m'a trouvé marrant, ce que j'ai trouvé marrant, c'est que quand elle parle de Frédéric, j'ai fait, ah, il y a un auteur au Japon qui s'appelle Frédéric Boilet. Si c'était lui, bah, gagné. Donc, j'ai découvert assez rapidement de qui elle parlait.
Bon, on a une préface ou une postface, je sais plus.
Une préface de Sfar.
De Sfar qui raconte un petit peu tout
et,
ça.
Et ce qui est surprenant aussi, c'est que elle ne se révèle pas qu'elle-même, quelque part. Elle révèle aussi son compagnon. Et je trouve que de la part du compagnon de permettre de, bah, de qu'elle le raconte lui aussi, hein, il y a une sorte d'ouverture d'esprit très grande. C'est moi ça m'a surpris là-dessus, je m'y attendais pas. Je peux pas dire de là que ça m'a plu ni pas plu. J'ai une sorte de choc, quoi. J'arrive pas trop à savoir ce que je dois en penser.
Ben moi je trouve, enfin justement, les choses sont assez crues. C'est très frontal, effectivement, comme tu le dis. Et pour autant, je trouve ça assez frais. Enfin, moi, ça m'a pas choqué à chaque fois qu'elle nous parle de pénétration, de sodomie, de.
Je crois que je vais le mettre en explicite.
Enfin, tout est amené de manière très naturelle, je trouve, dans sa façon de raconter les choses.
Oui.
Il y a un côté un peu ingénu dans la forme qui fait que tout ça passe très très bien. Et justement, on n'est pour moi pas dans de la pornographie. Elle nous raconte cette tranche de vie-là, cette découverte de vie-là, de manière très, très franche, très sereine, très... Ouais, comme on rencontrait ça à sa meilleure amie ou dans son journal intime, quoi. Sauf qu'effectivement, c'est ce côté-là qui, pour nous, en tant que personne extérieure, peut paraître un petit peu bizarre. Et je pense que ça doit paraître encore plus bizarre à l'entourage de ce couple-là que de pénétrer leur intimité de cette façon-là.
Hey, maman, regarde, je vais sortir un livre.
C'est ça. C'est... Ah tiens, Aurélia a sorti un nouveau livre. C'est quoi? Ah oui, quand même, je le... Voilà, ok, bien. Aurélia, salut, bonne soirée, t'as amené des chips? Voilà, c'est... Je pense que pour l'entourage, c'est sans doute une
peut-être
approche...
C'est pour ça que c'est exilé au Japon.
Ah, voilà, c'est ça, c'est l'île d'Elbe.
Oui, mais du coup, j'en reviens.
Et après?
Qu'est-ce que ça t'apporte, quoi, après?
Bah, je pense que ça dépend de qui le lit, ça dépend de ta sexualité et tout ça. J'essaie de répondre à tes questions. J'essaye de répondre à ta question.
Ok. Ah, c'est le running gag, c'est le fil rouge, hein. C'est le fil rouge.
Je le fais exprès, tu vois. Je
suis pas. Bon, vas-y, je me tais, je dis plus rien, vas-y.
Tu prends la suite. Prends la suite. Phrase d'affilée, Thio.
Prends la suite, Thio, vas-y, je t'en prie. Oh.
Non, qu'est-ce que je te dis d'autre ? C'est bon ?
Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Matt, sur le fait que, bon, bah, une fois que les faits, on découvre tout ça est passé, bon, bah, qu'est-ce que ça a de plus ? Effectivement, ça n'a rien de plus. C'est une tranche de journal intime, ni plus ni moins, mais je trouve ça bien raconté, encore une fois. C'est très frais. Le dessin est très doux. Toute la partie sexuelle est très enfantine, et je trouve que ça reflète bien l'atmosphère qu'elle a voulu dans ce livre, ce côté ingénu. Donc voilà, tout fonctionne bien. La couverture, voilà, est très enfantine. Enfin voilà, on est dans la même atmosphère. Ouais,
pour le dessin, j'ai mis brut. Il y a un côté très brut, très direct, on y va, on lâche le dessin rapidement. J'ai pas eu l'impression que ce soit forcément très, très travaillé, très réfléchi. On dessine aussi vite qu'on raconte.
Complètement, ça se lit très très vite. C'est dessiné sans doute peu. Enfin, en tout cas, ça donne cette impression que ce soit fait très très vite. C'est, oui, encore une fois, enfantin, hein, le petit dessin d'enfant, le petit croquis, quoi.
Théo, dessin. Ça y est, il est vraiment avec
aspect son... blog. Après, on reste exactement ce que vous avez dit, quoi. Point.
J'attends qu'il dise point maintenant, parce qu'à chaque fois, je sais jamais, tu vois.
Mais c'est pour ça que je le place, comme ça, du coup, au moins, je finis ma phrase.
On va faire comme pour les...
Roger.
On va faire stop à la fin des... Non, quand j'ai oublié le...
Les télégrammes.
Les télégrammes.
Comment... Les télégrammes existent toujours, en fait.
Ah bon ?
Ouais.
Ah merde.
Comment je me suis fait plaquer et autre histoire d'amour extra et ordinaire ?
Extra et ordinaire.
Un collectif chez Dupuis qui nous raconte plein d'histoires d'amour et de comment elles finissent, surtout la plupart du temps.
Les histoires d'amour finissent mal en général.
Et c'est raconté par une flopée de tonnes d'auteurs que sont Hassen, Thomas Cadden, Capucine, Vincent Co, Claude Kay, Abraham Calabra, Lucie Durbiano, Karim Fria et Julien Bracamer, Lila, Lucille Gomez, Cossel, Miss Patty, Marion Montaigne, Corentin Panlou, Loïc Sécheresse, Bastien Vivès et Vendry. Voilà.
Et nous avons eu la chance de croiser deux de ces auteurs, à savoir Vincent Co, dont l'interview a déjà été mise en ligne,
oui.
et Lucille Gomez, dont l'interview a déjà été mise en ligne.
Et Vendry, qui a fait un HS avec nous.
Qui a fait un HS, effectivement. Donc voilà, c'est un joli livre collectif, c'est très sympa, tous les dessins sont extrêmement différents. Le côté anthologie est assez prononcé, mais c'est vraiment sympa. Chacun a son petit espace, chacun a raconté sa petite tranche de vie ou sa petite historiette. C'est très très sympa à lire. Le point commun, c'est que ça reste souvent des histoires d'amour ratées. Moi, j'ai marqué amour manqué pour les scénarios parce qu'effectivement, c'est souvent ça, c'est la rencontre qui a été manquée, c'est le quiproquo, c'est la mauvaise façon de se dire les choses. C'est les premiers déboires amoureux, généralement, les premières rencontres qui tournent mal. On a à chaque fois des petits intermèdes ludiques et rigolos avec deux petits personnages.
Un truc de Vendry avec les personnages de Club
de Vendry, voilà, qui sont
cyniques et drôles.
Exactement, qui sont très sympas, qui permettent de faire la transition d'une histoire à l'autre. C'est un petit peu comme le Trou Normand.
Ça permet de digérer entre deux histoires.
Ça permet de digérer entre deux histoires parce que voilà, elles ont pas toutes la même ambiance. Et voilà, c'est un très joli livre qu'on lit avec facilité, simplicité, mais on arrive toujours à retrouver des petites tranches de choses que l'on a vécues soi-même. C'est assez sympa.
Je dirais à Vendry qu'il a dit qu'il était un peu comme le Trou Normand. Il va aimer.
Et les interludes ont été faits avant ou en fait ont été faits une fois qu'il avait déjà tous les scripts?
Alors c'était en partie déjà publié dans une BD qu'il avait fait comme les pierres, qui ressort d'ailleurs Vendry derrière, et je crois qu'il les a adaptés pour que ça colle.
Parce que là ils répondent, enfin souvent ils répondent très très bien aux différentes histoires, quoi.
Oui oui. Bon, c'est très varié, c'est toujours le problème des anthologies. Quelle est l'histoire qui vous a le plus plu? Est-ce que vous sauriez le dire?
Le problème, c'est que du coup, je vais citer deux personnes qu'on a déjà vues.
Est-ce que c'est le fait de les avoir rencontrées?
Est-ce que c'est le fait? Je sais pas. Mais franchement, l'histoire de Vincent Co avec ses robots, ça m'a fait beaucoup rire. Et ensuite, l'histoire de Lucille Gomez sur le jaloux. graphiquement m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup emballé.
Isaac.
Point. Pardon. sur le même principe que Mathieu, alors, pour le coup, l'histoire de Vincent Cau, je l'ai trouvée rigolote, mais elle ne m'a pas particulièrement touché. Celle de Lucille Gomez, par contre, beaucoup plus. Peut-être aussi parce qu'on a appris lors d'une discussion que c'était une histoire vécue, alors qu'après, elle a adapté en bande dessinée, sans doute un petit peu modifié, romancé. Mais la transposition en loup, la dynamique, le côté poétique de tout ça est vraiment très très bien réussi. Et il y en avait une autre, mais puisque ça fait un petit moment que je l'ai lu et que Pierrick est en train de feuilleter sans vouloir me passer le livre, je ne peux pas vous dire quelle était la deuxième qui m'a beaucoup plu. Merci petit Pierrick. C'est peut-être l'une des premières. Parce que je pense qu'elle est arrivée à beaucoup de monde, les histoires manquées où je t'aime moi non plus, je veux pas décrocher à son appel, mais en fait il me plaît. Voilà, c'était ça se termine par je suis vraiment débile et c'est voilà, je pense que à peu près tout le monde a vécu ça et c'est raconté très simplement et je pense que tout le monde peut s'y retrouver. C'est l'histoire de Capucine exactement. Je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Après, il y en a quelques-unes qui sont assez violentes. Il y a une histoire avec une voiture, je me rappelle plus exactement, d'une celle nana de... qui. Il y a des choses assez.
C'est le X-Sécheresse. En plus, graphiquement, le X-Sécheresse, il est très particulier. Tout le monde n'accroche pas. Moi, je trouve que ça colle très très bien.
Voilà, moi, ça m'a beaucoup plu, mais c'est effectivement, ça peut paraître un petit peu dérangeant sur ça, sous certains aspects.
Côté tarantinesque.
C'est ça.
Ouais, bah moi, je vais pas être très imaginatif. Je vais un peu reprendre ce que vous aviez dit. C'est l'histoire de Lucille Gomez qui est bluffante, en fait. Graphiquement, c'est du beau conte. C'est une belle histoire sur l'amour. Voilà. Et puis bon, après, il y a Marion Montaigne, mais ça, c'est autre chose. C'est pas graphiquement que j'adore, c'est la façon qu'elle a de raconter. Bon, c'est une anthologie qui vaut le coup, d'après vous ?
Oui.
Thio ?
Ouais.
Ouais ?
Oui, non, c'est très sympa.
Très sympa à lire. Après, peut-être encore le trouver, parce que je ne sais pas s'il doit y en avoir encore beaucoup en circulation maintenant. Quoi.
Je ne saurais dire. En tout cas, c'est un beau portrait de toute, je dirais, la scène BD un peu récente. On a beaucoup d'auteurs, je dirais, entre guillemets, jeunes dans la BD, contemporaine. Et c'est un très très beau portrait de tout ce qu'ils font. Ça vaut le coup pour ça.
On est chez Dupuis et ça coûte un peu moins de 20 euros. 5 centimes de moins.
Dans les bacs.
Invincible, tome 7. Mars attaque.
Bah, la suite.
On enchaîne sur cette série qui est toujours du super-héros modernisé.
C'est ça. Donc, Invincible, désormais, il a du taf, quoi. Il va donc combattre, je crois, une invasion dans une université. Ah ouais.
Ouais.
L'univers de la séance avec. Isaac est en train de feuilleter, et là on voit donc les humains, les super-héros extraterrestres et les ennemis de la série. Un petit rappel de tous les différents personnages que l'on peut rencontrer.
Et
le résumé des épisodes précédents qui fait 5 lignes.
Oui, mais en fait, disons qu'il y a un paquet de personnages. Hein.
Ouais.
Puis il s'amuse à mettre des petits bouts d'histoire qu'il va développer derrière. Donc là, on a les réanimecs, par exemple, qui rappliquent. Ça fait combien d'épisodes que...
Qu'on cherche son voisin de chambre.
Son voisin de chambre qui a disparu.
Ouais, mais pour autant, en plus, on l'avait déjà un peu vu dans le tome précédent.
Oui.
On les avait vus passer, mais sans avoir plus de détails.
Et là, il résout cette intrigue-là.
Ouais, cette intrigue-là est résolue.
Pareil, on a le Martien qui est arrivé sur Terre. Il résout cette intrigue-là. Il résout pas mal d'intrigues, en fait, dans ce tome.
Ne spoilez pas.
On spoil pas, non, mais oui. Bon, écoute, voilà, ça suit l'histoire, mais après il y a, je pense que là dans ce tome-là, on est toujours dans le tome développement personnel, quoi, de Invincible, avec maintenant il lit les histoires de son père, qui sont censées donc lui permettre de vaincre ceux de son espèce. Et,
les Viltrumites,
et on va aussi avoir donc son développement personnel à lui, dans le sens où les rapports entre sa vie privée et sa vie publique.
Et c'est plutôt...
les difficultés qui sont inhérentes à tout ça, quoi.
Je laisse un blanc après que tu aies parlé. C'est plutôt bien trouvé. Non, moi, c'est toujours prenant. Après, c'est vrai que c'est difficile de reparler pendant des heures de cette série. Je pense qu'il faudrait qu'on la passe dans les express, peut-être, dans les fois à venir. Parce que ça reste très, très bien. Mais il n'y a pas grand-chose à rajouter, quoi, sur le fond. On n'est pas... Enfin, il n'y a pas de changement majeur. C'est très agréable à suivre, très agréable à lire.
Le personnage continue de grandir, quoi.
Voilà. Peut-être que, ouais... ça va enchaîner différemment. J'aimerais bien qu'il y ait une évolution, quelque chose qui... Mais d'un autre côté, j'ai peur que ça perde de l'intérêt si ça évolue trop.
C'est pas faux. En même temps, tu as un petit pitch à la fin qui est sympa.
Petit cliffhanger sympa, ouais.
Ouais.
Touillon, tome 1, par Géo. Le livre 1 s'appelle La valeur de nuage et c'est chez Bac à BD.
BKBD.
Touillon nous raconte l'histoire de Céleste, un jeune caractéen, qui est donc, en gros, il a des sortes de cheveux en pierre, avec des cristaux.
Merci, mise à jour. Merci de votre participation. Donc peut-être que vous ne l'avez pas entendu, mais la base virale de l'ordinateur d'Isaac a été mise à jour, donc ça y est, il pourra se défendre contre tous les virus qui pourraient infecter son ordinateur.
Et donc le jeune Céleste retrouve un jeune garçon qui a les yeux un orange et un vert, des yeux très bizarres.
Non ?
Ouais, orange et vert.
Je crois que
je crois qu'orange, c'est pas une couleur.
Non, mais dès que t'as des deux yeux de pas la même couleur, ouais. C'est...
Et donc, il décide de le... Ouais. De s'en occuper parce qu'il a reçu une mission d'une grande créature pour... aller préserver les couleurs du monde derrière.
Voilà.
Le genre, c'est de la fantasy jeunesse. Et les couleurs, parlons-en.
Les couleurs, ça pique. Ça pique les yeux. Ouais, c'est une horreur, on peut le dire. Quoi.
Ah, moi, j'ai trouvé ça, les couleurs ne me déplaisent pas. C'est pas ce qui me gêne, moi, les couleurs.
Moi, j'aime bien les couleurs. Trouvé que c'était trop flash, là. Moi, ça... enfin, déjà, d'une part, sur le dessin me fait penser un petit peu... Ouais, du manga Pokémon ou Fly, quoi. Et c'est flash.
Ah, les couleurs sont flash, mais je trouve que ça colle très très bien à l'univers. C'est pas ça qui m'a perturbé. C'est censé être justement un univers très coloré. Les couleurs sont apparemment à l'origine du monde. J'ai trouvé globalement que l'univers était original et intéressant. C'est vraiment le dessin qui m'a posé un souci. Sur un point très simple, c'est que le dessin n'est pas mauvais, mais l'ancrage me semble inexistant et pas propre. Il y a un côté brouillon.
À l'ancrage et à l'édition.
Voilà, enfin, Isaac, tu disais
Je trouve qu'il y a des défauts sur l'ancrage et sur l'édition. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un format, un petit format, un 10-15 ou je sais pas quoi, qui aurait été agrandi. On a les traits de contour des personnages, etc. Enfin, y a des endroits où il y a des manques, on voit des points, mais pas parce que c'est un choix, on a l'impression que c'est à l'agrandissement que ça fait ça.
Alors moi, surtout quand tu regardes la couverture, je trouve la couverture superbe. Il y a vraiment une qualité dans justement la couleur, l'ancrage, c'est beau, quoi. Mais à l'intérieur, on ne retrouve pas ça. On sent qu'il y a ce trait, mais... C'est voilà, moi c'est vraiment voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ancrage, ça manque beaucoup. Et c'est dommage parce que les designs sont originaux, les idées sont sympas. J'ai trouvé ça un peu dommage. C'est vraiment le dommage, c'est le mot qui me vient le plus en fait en lisant ça.
Ça donne l'impression qu'on a enregistré un dessin animé mais en mauvaise qualité à la télé.
Ouais, enfin pour autant il y a quand même des bonnes choses aussi dedans. Il y a beaucoup de, moi je trouve qu'il y avait beaucoup de références, quoi. Comme j'ai dit tout à l'heure, un peu à Pokémon pour les animaux, Fly pour les personnages, mais il y a aussi des petites références à Miyazaki, quoi, sur les paysages, sur les décors. Après le scénario en lui-même est intéressant quand même. Moi je pense que ça peut être sympa à lire et à suivre. Maintenant,
ouais, les méchants sont fun. Il y a des bonnes gueules, il y a des trouvailles sympas, genre la potion qui te transforme en crayonné. Il y a plein d'idées super sympas, mais malheureusement, voilà, on est un peu coincé. Enfin, moi, j'ai été un peu bloqué par la forme, ce qui m'a donné un peu du mal, et c'est vraiment dommage parce que c'est bourré de bonnes choses. Et voilà, c'est juste cet ancrage qui pose problème.
Faudra peut-être voir la suite, déjà, d'une part, pour au niveau de l'histoire. Bah, par contre, c'était pas déjà un problème qu'on avait trouvé sur une autre BD de bac à BD, l'ancrage ou la couleur?
C'était sur la couleur, c'était sur Alcan.
Ouais.
Et c'était les premières planches qui avaient un problème de couleur. Mais là, ça venait plus de l'impression, je pense. Donc, voilà pour Touillon. Qu'y a-t-il, Isaac?
Encore deux tomes à paraître.
Oui, deux tomes à venir. Enfin voilà, c'est un peu dommage.
Je n'ai pas encore lu l'histoire, hein, donc j'ai feuilleté l'intégralité du bouquin là, et ça ressemble vraiment à un dessin animé. Hein. C'est que ce soit au niveau de la mise en page,
mais je pense que ça peut être génial,
comme bouquin, etc. Voilà, je pense que pour les gamins, ça peut effectivement bien fonctionner. Nous, les détails qu'on voit en termes de défauts, que ce soit à notre goût, hein, en termes de colorisation, etc. Je pense que ça ne va pas forcément affecter le plaisir de plus jeune. Hein. Donc, au vu des couleurs, de la mise en page, etc., je pense que ça peut vraiment plaire.
Ouais, mais il y a tellement de choses qui sortent actuellement que c'est sur ces détails que vont se faire les différences, et je me répète, dommage.
Mais ouais, peut-être que tu auras les fans de Toff Sea aussi qui pourront retrouver dans Touillon un petit revival de leur série préférée quand ils étaient jeunes. Peut-être, hein, peut-être que ça peut du coup essayer de véhiculer quelques lecteurs en plus.
Une nuit à Rome. Scénario et dessin de Jim.
Chez Grand Angle.
Chez Grand Angle, un gros volume pour du Grand Angle d'ailleurs. Ça nous raconte l'histoire d'une promesse. Ils avaient 20 ans, et ils se sont promis de passer ensemble la nuit de leurs 40 ans, quel que soit l'endroit où ils seraient, quel que soit comment aurait évolué leur vie.
Les promesses à la con, quoi.
Les promesses à la con. Et alors qu'ils avaient complètement oublié ça, Raphaël reçoit pour son anniversaire, pour ses 40 ans, une VHS où ils avaient filmé cette promesse-là. Et il retrouve donc son premier amour et il ne sait plus, il commence à péter un câble, quoi. Et à plus trop savoir quoi faire alors qu'il a une copine, qu'il est installé.
Qu'il a un boulot, enfin qu'il a une vie, quoi. Il s'est construit une vie 20 ans après, mais est-ce qu'il va tout plaquer pour son amour de jeunesse ou pas. Bon, alors là, on va pas spoiler, mais en même temps, quasiment dès la première page, on sait qu'il a craqué.
Oui.
Hein. Et malheureusement, en fait, c'est tout le long du bouquin, c'est ça. C'est moi, j'ai alterné entre l'envie de donner des claques.
Peut-être que c'est bien écrit.
Ah, mais c'est très bien écrit. Hein. C'est très pertinent dans tous ceux qui ont eu une petite vie, on va dire, qui n'ont pas 15 ans, je pense, peuvent se retrouver très facilement dans ce bouquin qui s'avance vers des personnes qui ont déjà un petit peu de bouteille, quoi. Parce que de suite, ouais, on se dit, ouais, ça fait très tata claque, t'as très envie de le baffer ou très envie de lui dire, mais t'es vraiment qu'une bip. Et voilà.
Avec ce qu'on a parlé tout à l'heure, l'épisode sera explicite, tu peux dire les mots. Jim, je voudrais parler vite fait de l'auteur, parce que c'est un monsieur, en fait, pour moi, Jim, c'était le gars qui avait fait « On éteint la lumière, on se dit tout ». Je sais pas si tu te souviens de cette BD tout en noir, avec juste des bulles de texte de gens qui parlent. C'est aussi un spécialiste des tous les défauts des mecs, 500 idées pour glander au boulot. Tu vois, de la bonne bande dessinée de supermarché, qui cartonne bien. Je crois que c'est lui qui a fait « Je savais pas quoi t'offrir pour son anniversaire ». Alors, enfin, ce genre de truc-là. Mais j'ai découvert aussi qu'en fait, il s'appelait aussi T.I. Donc fait tendre aux tomates, au scénario, ce genre de choses-là. Et il a plein d'identités différentes en fonction de ce qu'il scénarise. Et j'étais surpris qu'il signe Jim cette BD-là, alors que c'est plutôt sa signature adaptée à ses scénarios comiques d'habitude. Surtout qu'il s'appelle Thierry, en vrai. Voilà.
Il est bien, ce mec.
Donc, très très bon scénario. Pour moi, j'ai mis au niveau du scénario que... Il était venimeux, parce que c'est vraiment la fille, là, la Marie, elle est venimeuse, quoi. C'est le truc, en gros, le gars, il s'est sevré avec difficulté de la bonne femme, et juste, quand il commence à aller bien, elle rapplique, et « Hey, mon gars, tu lâches tout et tu viens me voir ».
Ouais, enfin, c'est peut-être, je sais pas... une sorte d'histoire voilà, sur la condition de l'homme, tu vois. C'est... Ouais, on est vraiment con quand même.
Vraiment con, hein. Comment se fait voilà, avoir.
C'est ça. Ouais, non, mais c'est très bien écrit, le scénario est excellent, mais c'est vrai que du coup, tu as envie de le baffer à peu près toutes les trois pages.
Comment Poucelle, en fait.
Non, lui, parce qu'il n'avait aucune force de caractère à 20 ans, et à 40, c'est toujours la même merde, quoi.
Ouais, mais il y a ça, je suis d'accord, mais oui, pourquoi est-ce qu'elle se permet d'un coup de revenir dans sa vie?
Parce que c'était une promesse, mais elle, c'était, ouais, elle est restée dans le truc d'il y a 20 ans, mais lui, il y a 20 ans, il dit de lui-même.
Non, mais elle non plus n'a pas grandi, quelque part, dans ce cas-là.
Oui, mais c'est lui qui est coupable dans l'histoire.
Oui. Oui.
Parce que c'est lui qui, à 20 ans, dit que, bah, c'était une relation déjà de merde et que il était complètement obnubilé par elle. Et 20 ans après, je veux dire, elle lui fait juste un petit coucou et ça y est, quoi, le mec, il revient ventre à terre alors que, bah, il sait qu'elle va lui faire du mal, quoi.
Mais quelque part, j'arrive à avoir de l'empathie pour lui, mais pas pour elle, tu vois.
Ouais, j'ai de l'empathie, même, tu vois, il me fait de la peine, quoi, ce gars, mais. Malheureux, voilà.
Non, voilà, non, puis toi, on a tous connu ces filles qui, à chaque fois qu'elles revenaient, on y retournait et on se faisait avoir, tu vois.
C'est ça. Hein. Mais justement, c'est que quand tu le fais à 20 ans, est-ce que tu à 40, tu le fais plus, tu vois? Parce que justement, t'en as déjà assez pris dans la gueule pour te dire, peut-être que je vais pas y retourner une 20e fois. C'est que voilà, l'idée est peut-être rentrée en tête. C'est ça. C'est pour ça que du coup.
En tête, ouais.
Ouais. Mais il y a 20 ans, il aurait dû, mais je pense que voilà, l'histoire est très bien menée, c'est très bien fait, mais.
C'est à suivre.
À suivre.
Le dessin.
Bien.
Élégant. Il y a un trait vraiment élégant, quelque chose de beau, d'assez fin. Moi, j'ai trouvé ça vraiment joli, bien raconté, bien mis en scène. Un usage de la mise en page qui fonctionne bien. Et puis, il sait utiliser des silences. Alors, en plus, j'ai lu Nuit à Rome juste après avoir lu Moi, Anastasia R. Alors, autant te dire que j'ai apprécié la façon qu'il avait de ne rien te dire pour te montrer les choses. Voilà. J'ai trouvé ça très, 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 très joli. Et ça sert très, très bien son scénario et son intrigue. Surtout que, quand t'as vu sa BD, On éteint la lumière, on se dit tout, où en gros, il faisait juste des bulles sur fond noir, j'étais pas sûr qu'il sache dessiner, en fait.
Moi qui ne l'ai pas encore lu, et je ne suis en train que de le feuilleter, je trouve qu'il y a une très jolie sensualité dans les dessins.
Oui.
Il a. J'ai pas encore lu l'histoire, hein, donc par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure de pas arriver forcément à s'attacher à l'héroïne. Moi, uniquement par le dessin, sans avoir rien lu de l'histoire, etc., je la trouve très craquante, très attachante. Il y a une vraie sensualité qui se dégage d'elle. Alors après, ça va peut-être la desservir dans le scénario, je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau du dessin, la tentation de cette nana est bien rendue, je trouve.
Donc, moi, c'est à lire. J'ai hâte de voir la suite parce que j'ai trouvé ça bien sympa. Deuxième tome, en théorie, il n'y aura que deux tomes, hein, à ce que j'ai pu comprendre.
Ouais. En plus, c'est un connard comme il arque sa copine.
Oui.
Je sais pas, je dois être, oui. être profane en ce moment.
Tiens. Ouais, c'est
les hormones. Moi aussi, je suis désolé. Quand tu l'auras lu, tu diras vraiment que c'est un connard quand même.
Je suis d'accord.
Blotch!
Bitch! Oh mon dieu, je crois qu'il bouge plus! Oh là!
Appelle le 911, vite! Vite!
Attends, regarde s'il respire! Il va pas s'en sortir, faut pas que ça s'arrête maintenant!
Appelle le 911, vite!
Faut pas que ça s'arrête maintenant, c'est pas possible!
Vite!
Ah! Allez.
Ah! Non, apparemment c'est bon!
C'est bon, il s'en sort!
Super Bendis a sauvé les miches de Powers, tout va bien!
Ok, donc Powers continue!
Powers continue!
On a vraiment échappé belle!
C'est sûr, enfin surtout ceux qui le lisent!
Powers revient, et vraiment, j'ai cru, moi, qu'on le verrait pas revenir. Enfin, si, j'avais eu une petite chance qui me disait, parce qu'il y a une rumeur d'adaptation en série télé.
Ah.
Et je me suis dit, s'il adapte en série télé, ça ne peut que revenir. Je veux dire, si les éditeurs ratent ça, c'est pas la peine, quoi. Même si l'adaptation en série télé, ça me fait un peu peur. Qu'est-ce que Powers, cette série qui a failli disparaître? C'est une série qui nous raconte simplement les aventures de deux officiers de police dans une ville où il y a des super-héros.
Christian Walker et Dina Pilgrim.
Dina Pilgrim vient d'avoir son nouveau coéquipier. Enfin, c'est le gars qui est déjà depuis un moment dans la police. Elle vient de rappliquer. Et Walker, c'est un peu le gars taciturne qui parle pas beaucoup. Et elle, c'est la petite jeune qu'on voit des tonnes et qui fonce dans le tas.
Lui, il est un peu gaulé comme Superman, mais en civil.
Voilà.
Puisque c'est un ancien Superman en puissance, quoi.
Non, mais vas-y, continue à répéter ce qu'il dit, vu qu'il n'a pas le micro et que toi, tu l'as...
Qui s'appelait Diamond, nous voilà. Dit Thio.
Nous dit
Thio.
Qui a une vie très très longue, mais dont il ne se souvient guère.
Qui ne se souvient peu de sa vie précédente. Et en fait, je pense que je vais passer le micro à Mathieu, puisqu'il a plein de choses à dire.
Non, bonjour, bon, Thio.
Donc, ouais, non, Christian Walker, donc, qui était dans Diamond, et on a déjà vu dans les tomes précédents, toute sa longue vie, dont il ne se souvient pas ou peu. Et donc maintenant, il est désormais officier de police, mais il n'a plus de super pouvoir.
Il avait arrêté d'être officier de police,
il est revenu. Il s'était fait pousser la barbe aussi. Mmh. C'est vachement bien.
C'était un communiqué du comité pro-barbe. Donc...
Il y a des choses importantes à dire dans les séries, ça, c'était à dire.
La barbe, ça va vachement bien, Christian Walker.
Comme à Grissom dans Les Experts.
C'est vrai. Et Dina Pilgrim, bah, en fait, il y a eu un gros super-héros qui a pété un câble dans le.
Non, elle, la barbe, c'est moins bien pour elle. Hein.
Super Choc,
voilà, ouais. Qui a pété un câble et qui a dématérialisé et reconstitué Dina Pilgrim qui était morte et qui est revenue.
Qui est morte et qui est ressuscitée. Ce qui l'a un peu chiffonné d'ailleurs, grandement. Et elle revient un peu aux affaires.
Elle a quitté la police.
Et non, elle n'a pas quitté la police. Elle était en arrêt maladie, quoi, grosso modo.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était la fin du volume 1 de Powers. Vous savez, aux États-Unis, les séries ont plusieurs volumes. Des fois, ils les arrêtent pour les relancer à zéro, etc. C'était la fin. Et on arrive sur le volume 2 qui commence avec Dina qui revient bosser.
Parce que les lois ont changé. Depuis l'affaire Super Choc, aux États-Unis. Le président a proclamé que l'usage des pouvoirs mutants était illégal.
Voilà. Il est illégal d'utiliser des super-pouvoirs.
Et le gros souci que l'on va rencontrer dans ce système-là, c'est que forcément, si l'utilisation des pouvoirs est illégale, c'est tous les super-gentils qui, du coup, vont se dire « Ah, je vais respecter la loi, je vais arrêter ». Mais sauf qu'il y en a, il y a une espèce de gens qui, du coup, va dire « Franchement, la loi, je la respectais pas avant ». Et je ne vais pas commencer plus à la respecter maintenant, donc je suis un super vilain. Donc j'ai quand même continué à utiliser mes super pouvoirs pour défoncer toute la société et le monde entier.
Surtout qu'en plus, même si on sait que j'ai des super pouvoirs, il n'est pas illégal d'en avoir, il est illégal de les utiliser.
Oui.
Petite subtilité. Et donc, Dina va apprendre un peu que aussi le crime a évolué, qu'il y a 3 grands groupes qui gèrent le crime localement, menés tous par des super-héros. Et elle va faire comme elle fait d'habitude, foncer la tête la première en tête brûlée.
Ouais, avec une méthode d'interrogatoire qui est assez personnelle.
Oui, elle est un peu...
Mais qui fonctionne bien. Bon, le gars lui dit quand même qu'il était à deux doigts de lui dire avant qu'elle le tape.
Mais je pense qu'en fait, la convention de Genève... non.
La convention de qui ?
Ouais, hein, voilà, elle est un peu violente.
Ouais, mais en fait, ils sont un peu comme dans la série, comme dans 24 heures.
Mais elle, je crois qu'elle en veut un peu aux super-héros aussi.
La fin justifie les moyens, donc je peux tout faire.
Elle en veut un peu aux super-héros. Et donc, il va lui arriver un grand malheur, on va dire, encore, à Dina. Et on va suivre l'histoire, qui va essayer de nous expliquer comment est-ce qu'il essaye de résoudre ce grand malheur qui arrive à Dina. La série en soi était déjà magistrale, j'étais déjà fan. Le fait qu'elle reprenne, moi, je suis super content, parce que franchement...
On a eu très peur qu'elle ne finisse pas.
En fait. Enfin, on n'est pas la suite en français, quoi. Et parfois, les dialogues de Bendis en VO, j'ai peur que ce soit un peu compliqué. Hein. C'est bourré d'argot en général.
Il faut un peu de dictionnaire. Quoi.
Voilà. Et puis le slang, hein. Pas n'importe quel dictionnaire. Hein. Le dessin, c'est sombre.
Très sombre. Très sombre, mais en même temps, très... Ça colle à l'ambiance, ça colle à la ville telle qu'elle est décrite. Et ce tome-là, ouais, est vraiment sombre, mais il sombre dans tous les sens du terme. J'ai même trouvé qu'il y avait, il était plus cru au niveau des crimes que tous les tomes précédents. T'as l'impression que voilà, c'est dans le premier volume, on était dans la société qui bon, c'était douloureux, il y avait, c'était des meurtres, hein, mais.
Et là, il y a un moment, tu fais la moue. Oh.
Et là, on a passé, je crois qu'on a passé un cap. Justement, voilà, le fait de cette nouvelle loi, c'est vraiment de te montrer que, la société est devenue encore plus violente. Et même, limite atroce, on retrouverait presque un petit peu du Transmétro ou du The Boys, quoi.
Plus The Boys, en moins drôle.
Ouais.
Ouais. Moi, le dessin, ça m'a fait penser à. J'aurais tendance à dire, tu sais, le Batman de des vieux dessins animés Batman. Il y a un peu ce côté un peu cartoony, mais sombre. Et là, bon, sombre et même limite gore, quoi. Hein, très très noir. Même si j'ai l'impression qu'il y a parfois un peu de laisser aller de la part de Mike Evan Oeming au niveau du dessin. Alors, Mike Evan Oeming est un dessinateur que moi j'aime beaucoup, qui a bossé sur Takio comme série que je ne connais pas, mais qu'on a connu avec, comment il s'appelait cette série, Légende des Templiers, je crois, Le Dernier Templier, qui était une très jolie série, qui scénarisait aussi, mais qui avait un scénario un petit peu pas très clair, je trouve. On avait parlé il y a un moment d'ailleurs, la suite, je ne sais pas s'il a sorti en France ou pas.
Je crois que la suite, elle est pas sortie. Enfin, si elle est sortie, en tout cas, là-bas, elle n'est pas sortie chez nous.
Il faudrait demander aux éditions Milady s'ils vont continuer. Brian Michael Bendis, au scénario. Alors lui, on ne le présente pas. D'ailleurs, il a mis un gros macaron sur le bouquin. Brian Michael Bendis, au scénario.
Il faut vendre.
Voilà. Brian Michael Bendis, c'est un scénario prolifique qui a commencé par être aussi dessinateur. Il avait fait du polar principalement, c'est son genre de prédilection. Il avait bossé sur Torso, sur Goldfish, sur des trucs de polar très très noirs avec des dialogues bien tranchés.
Des dialogues et surtout des scénarios très très bien ficelés, quoi.
Voilà. Et puis il a une façon de faire parler les gens qui était très adaptée d'ailleurs au gros volume des premiers bouquins qu'il a sortis. Et qui ont souvent été mal vus quand il a commencé à s'attaquer aux super-héros classiques, parce que lui, en 22 pages, il te raconte pas une histoire, quoi. Il te raconte un bout d'une histoire et il lui faut au moins ces 4 fois 22 pages pour faire quelque chose, chose qui est arrivée sur Daredevil, quand il a repris Daredevil. Et quand il a repris Daredevil.
Quand il a repris, il a bien repris quand même.
Il a bien repris, très très bon, toujours dans ce côté sombre-là. Il a aussi le Ultimate Spider-Man pour lui. Qu'il a réussi à gérer, c'est la seule série Ultimate qui se tenait de bout en bout.
C'est exact.
Voilà, qui valait vraiment le coup. Et des tonnes de choses, je veux dire, il a bossé sur Civil War avec Millar, il est devenu un des gros architectes Marvel, a géré plein des gros événements qui s'y passaient, tout en continuant à faire de la BD indépendante, dont Scarlett, dont on a parlé il y a peu, qui est très très bien. Et Powers, c'est son premier bébé, on va dire, en parallèle qui bossait pour les gros éditeurs. Il y avait toujours Powers, qui était sa série à lui. Scarlett, sa nouvelle série qui lui appartient.
Sa série un peu anti-héros, quoi.
Voilà, où il se fait plaisir et où il a totale liberté de dire ce qu'il veut. C'est à lui.
Disons qu'il est plus dans la maison aux idées, donc ça aide.
Voilà, et franchement, je sais plus qui s'est édité à la base, les Powers. C'est Image Comics, je crois, maintenant. Je sais plus, parce que ça a changé pas mal d'éditeurs, hein, Powers. Donc voilà. Le niveau du scénario, justement, pour ce truc-là, j'ai mis noir. Hein, on est vraiment dans du polar noir, bien sombre.
Moi, j'ai juste mis un onomatopée, c'était aïe.
Ouais, il y a des moments, t'as mal. Hein.
Dans tous les sens du terme, quoi. Hein, c'est autant mental que physique.
Ouais. Il y a de la douleur dans tous les sens. C'est du sang et de la douleur. Je suis resté vraiment un peu sur le cul, quoi. Alors que, attention, 2004, ce qu'on est en train de dire là. On a un petit peu. Bon, il ne sort pas aussi régulièrement que ses autres séries, parce qu'il fait ça quand il a le temps au milieu. Il faut savoir qu'actuellement, Powers, par exemple, s'est arrêté, le volume 2. Ils ont ressorti Powers FBI, c'est le nom de la nouvelle série.
D'accord.
Donc ils vont évoluer encore pour passer au FBI. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ce que j'espère, en tout cas, c'est qu'ils vont rattraper leur retard, continuer à publier Powers, qui est une série grandiose. Toi, t'as fait aïe tout du long.
Non, je suis vraiment resté. Tu me l'avais un peu vendu au départ quand tu m'as refilé le tome, donc du coup, ça m'a donné quand même très envie de le lire. Ce qui fait que je l'ai lu d'une traite, mais en étant bien scotché, même en connaissant, enfin, parce que tu m'avais déjà un petit peu spoilé, donc du coup, même en connaissant les tenants et les aboutissants, ça m'a quand même bien.
Waouh. Sans spoiler, pour essayer de donner envie de la suite, espoir ou pas sur la fin? Il y a une petite note d'espoir avec un événement.
Ouais, il y a une petite note d'espoir, mais
les dernières images.
Là, font que, a priori, c'est, ça va être compliqué.
Ça va encore être noir. Hein. Il y a un peu de couleur hein, vers la fin.
Ouais. Sur sa gauche, il y a une petite couleur. Ouais.
Regarde, il y a des couleurs.
Ouais,
du vert.
C'est ça. Et tourne encore, voilà, vas-y. Encore ça un petit coup. Voilà.
Ah, c'est noir.
Voilà. Et celle-là, voilà. Il y a un petit peu de couleur sur sa gauche, c'est ça. Mm-hmm. Mais tu sais pas si c'est dans le bon sens ou pas, en fait.
C'est très, très, très bon. Très bien écrit. Très, très dur. Le tome est assez conséquent. Il y a 6 tomes dedans, donc ça vaut le coup.
Ça fait 8 tomes déjà donc qui sont parus chez Panini, donc ça peut être une série qui est assez rapide à récupérer au niveau du retard, et franchement ça fait des très très bonnes histoires.
Je pense qu'on peut même la prendre en cours de route à ce tome là mais ça serait vraiment dommage parce qu'on perd beaucoup.
Non, parce qu'en ouais, mais en plus c'est que même si on veut rattraper son retard, tous les tomes peuvent se lire presque
ouais, indépendamment.
Il y a l'histoire générale, mais il y a surtout quand même une grosse histoire par tome,
une grosse intrigue, un gros arc narratif.
Ouais, donc franchement ça peut se faire à chaque fois en un tome, et allez, en 8 mois vous allez rattraper votre retard.
Faut passer au-delà, je pense, des dessins, parce que beaucoup, en voyant les dessins très simples, très enfantins, on se retrouvait un peu coincé. C'était le cas de Isaac. Faut vraiment aller au-delà de ça, parce qu'en fait les dessins servent très 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 bien le propos, étonnamment bien même, parce qu'on s'y attendrait pas. Donc je ne peux que vous recommander Powers, une excellente série.
Online.
Pour le online, je vais vous parler d'un vieux truc que je suis depuis un moment, c'est Charlie Poppins. Alors il est plus très 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 actif en ce moment, Charlie Poppins, mais il fait en gros de la bande dessinée comme on en faisait il y a... Comme on en trouve dans les magazines, vous savez, il y a une seule image et en général un petit texte dessous qui explique, qui légende l'image. C'est toujours très drôle, c'est un humour assez absurde. Là, il y a Isaac qui est en train de les lire et qui s'est déjà esclaffé à plusieurs reprises. Moi, je suis un grand fan. Graphiquement, il y a un style très, très, très simple. C'est du monochrome dans les oranges qui fait un peu vieillot. Franchement, je trouve ça très sympa, Isaac, toi qui en lis quelques-uns depuis tout à l'heure.
Ça fait strip old school, c'est très sympa. Le fait que ce soit en une seule vignette, faut que le dessin soit très expressif, et le petit texte en dessous qui vient compléter ça, c'est vraiment bien foutu. Je mettrai un petit bémol par rapport à toi, c'est pas toujours très drôle, ça fait au minimum sourire.
Oui, c'est déjà pas mal.
Ce qui est déjà pas mal. Mais il y en a quelques-unes qui sont vraiment très très drôles.
Donc voilà, Charlie Poppins, je recommande grandement. Il fait moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait en général, et c'est rare qu'il ne me fasse pas sourire, voire même rire. Ha, ha, ha.
Et puis il y a une petite news.
Qui date de quand ?
Quoi ils vont faire, alors qui date du mois de mai. Comme quoi il va y avoir une espèce de production collective à base de dessins. Ce ne sont que des illustrations visiblement, et avec du monde, donc en l'occurrence Charlie Poppins, mais aussi David Mourier, Aka, Boulet, L'Homme Sec, Stéphane Cafiero, Le Crew des Artettes, Skek, Hassein, Sophie Howard, Gad, Pénélope Bagieu, Lila, Nekoto, Navo, Gali, Martin Wittberg, Obion, Poulpe, Pochet, Bastien Vives, Pierrot et Vendrille, encore lui.
Ça fait du beau monde.
Ça fait du beau monde apparemment. Hein.
Voilà. Je crois qu'on a fini. Merci de nous avoir écoutés.
Merci à tous.
Voilà, Thio est déjà affalé dans le canapé, il a des nuits à rattraper.
Le pauvre petit Thio, je suis pas sûr qu'on le garde jusqu'à la 300e dans cet état-là. Hein.
Mais non, ça ira mieux après, ça va mieux après. On se retrouve dans 15 jours, car on ne s'arrête pas de l'été, hein, en théorie. Enfin, en théorie, je dis ça, on se retrouve dans 15 jours, on verra, il peut se passer des choses encore d'ici là.
Tu as une nouvelle à nous annoncer ?
Non, rien de spécial.
Ta femme n'est plus enceinte, ça y est, c'est réglé.
C'est un moment déjà. n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur iTunes, à nous liker sur Facebook, à venir écouter les conneries que je raconte sur Twitter.
À envoyer du courrier à je sais pas quelle adresse, ou une petite culotte, ou n'importe
quoi. Ouais, n'hésitez pas à voter toujours pour savoir quel BD on achète à la rentrée. C'est sur la colonne de droite sur le site. Et puis on se retrouve à très bientôt. Passez un bon été, ne brûlez pas trop. Ciao.
Bye bye, bon rosé.
commande. Avec fraises et chocolat. Fraises et chocolat.
Parler, hein. Je veux pas te couper la parole.
Avec ses... Putain, il a pas dormi avec ses...
Il a pas dormi avec son fils, là. C'est... Il est un peu bougon aujourd'hui. En plus, qu'on en a eu le malheur de...
De lui piquer le micro, un peu comme il vient de le faire.
Avant de parler de ça, je voudrais juste rappeler... Alors, je voudrais rappeler...
Je vous demande de vous arrêter.
Comment il s'appelle avec la chaussure à crochet, c'est ça, non? Hein? Je t'ai le droit de la séance.
Vas-y, petit pied, vas-y.